Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute du 241e numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Alors que nous sommes au cœur d'une semaine particulièrement dense en événements musicaux de toutes sortes, si Piano Jacobin se termine vendredi par le concert d'Elisabeth Leonskaya, deux saisons parmi les plus importantes vont commencer. Ce mardi 26 a lieu la première représentation des Pêcheurs de Perles, la production qui ouvre l'exercice 23-24 de l'Opéra National du Capitole. Et samedi, à la Halle aux Grains, se tient le premier concert de la saison de l'Orchestre National du Capitole. D'autre part, je rappelle que vendredi, à l'église Saint-Joseph de Montauban, le 29 septembre aussi donc, est donné le concert d'ouverture de la 9e édition du festival Passion Baroque par le chœur Dulci Jubilo et l'orchestre Les Passions. Voilà donc l'agenda très fourni qui s'offre à nous dans les prochains jours. Un peu plus éloigné dans le temps, la saison des Clés de Saint-Pierre commence, elle, le 6 novembre. Nous allons vous présenter sa programmation avec nos deux invités d'honneur, Sandrine Tilly, flûtiste solo de l'Orchestre National du Capitole, et Jean-Sébastien Borsarello, timbalier solo de ce même Orchestre National du Capitole. Tous deux sont également membres des Clés de Saint-Pierre et ils sont accompagnés du toujours fidèle Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Dans l'immédiat, nous allons d'abord jeter un rapide coup d'œil sur l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour Sandrine, bonjour Jean-Sébastien et bonjour Serge. Il y a longtemps que je n'ai pas eu trois invités dans l'émission. Oui,
c'est vrai.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous de Mélomanie. Je vais donc faire un petit retour rapide sur le concert qu'a donné Enave Yarden lundi. C'était à Saint-Pierre-des-Cuisines, mais c'était dans le cadre de la programmation de Piano Jacobin. Bien que cette soirée n'ait pas eu lieu au cloître, la pianiste israélienne a proposé un concert au programme plutôt original, puisqu'il voisinait Jean-Sébastien Bach et Robert Schumann, aux côtés d'un autre Bach, Carl Philipp Emanuel, le fils le plus connu du grand Jean-Sébastien, je ne parle pas de vous, Jean-Sébastien Borsarello, mais dont la musique pour clavier est assez rarement jouée en public. Son récital était donc très attendu, d'autant plus qu'Enave Yarden, qui fut l'élève du grand pianiste américain Léon Fleischer, se produisait pour la première fois à Toulouse. Et Serge, est-ce que vous confirmez l'information? Si vous la confirmez, c'est sûr.
Non, je ne peux pas confirmer absolument, mais j'avoue que je ne l'avais jamais vue à Toulouse, effectivement.
Je crois que c'est la première fois qu'elle vient, non seulement au Jacobin, mais à Toulouse de manière générale. Elle a joué, dans l'ordre, trois courtes pièces de Carl Philipp Emanuel Bach, le rondo en ut mineur, la fantaisie en mi bémol majeur et la fantaisie en ut majeur. Puis ensuite, elle a joué la très belle suite anglaise numéro 2 en la mineur de Jean-Sébastien Bach. Et elle a terminé cette première partie consacrée à Bach, père et fils. C'est le titre d'un CD qu'elle a enregistré tout récemment par un arioso avec variation de nouveau de Carl Philipp Emanuel Bach. Il y a une chose qui m'a frappé tout de suite chez cette pianiste, parce que d'abord la première impression est visuelle au moment où le pianiste s'installe à son instrument. Eh bien, c'est qu'elle a de toutes petites mains. Comme quoi, il n'est pas nécessaire d'avoir de longs doigts minces pour être un excellent pianiste. Elle se tient aussi très droite quand elle joue, avec une posture presque altière. Elle a une gestuelle extrêmement gracieuse, tout en étant vive. Tout ça au service d'un jeu très fluide. Les sonorités sont belles et rondes. Alors, la découverte de cette première partie de concert, en tout cas en ce qui me concerne, c'était les pièces pour clavier de Carl Philipp Emanuel Bach, compositeur que l'on présente souvent comme un passeur entre le baroque de la fin, incarné par son père, et la génération des classiques viennois, dont Mozart, qui d'ailleurs admirait beaucoup Carl Philipp Emanuel Bach, une sorte de chaînon manquant entre baroque et classique. Mais ce qui est étonnant dans les pièces que l'on a entendues lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines, c'est qu'on y trouve des passages, des éléments quasi pré-romantiques, pour ne pas dire romantiques, qui font déjà penser à la musique d'un Robert Schumann. Et c'est là, entre autres, que résidait l'intérêt de la seconde partie du concert, dédiée à la fameuse Kreisleriana de Schumann, qui a été donnée lors du concert d'ouverture de Piano Jacobin 2023 par Grigori Gigashvili. Autant le dire tout de suite, l'interprétation d'Enave Yarden n'avait pas grand-chose à voir avec celle du jeune et fougueux pianiste géorgien. Elle jouait cette œuvre, périlleuse s'il en est, avec beaucoup de douceur et d'intériorité, Peut-être que ça manquait même un peu d'intensité par moment, mais on peut comprendre qu'une pianiste a des passages à vide, tant cette pièce est longue et difficile, Serge.
Oui, ben, la version de Gigashvili ne manquait pas, elle, d'intensité et de force. Hein. Je me souviens qu'on a été très impressionnés par l'immense sonorité de son clavier. Hein. Et puis, il faut remarquer que très souvent, dans le Festival Piano Jacobin, une œuvre est jouée deux fois.
Parfois trois, même.
Pour donner un peu...
C'est intéressant, d'ailleurs, de pouvoir...
Les aspects différents d'une œuvre donnée, c'est une bonne idée, oui, oui.
Enfin, bon, je tiens à préciser tout de même que l'essentiel, c'est qu'Anna Viarden a su remettre de l'intensité quand il le fallait pour garder l'attention de l'auditeur. Elle était très applaudie, à juste titre, à la fin de sa prestation. Elle est revenue sur le plateau pour jouer un bis, encore du Schumann a priori, peut-être une des scènes de la forêt, j'en suis pas sûr, hein, j'ai pas pu lui poser la question. Toujours est-il que c'était une très belle soirée pour piano au Jacobin dans un auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines qui était quasi plein. Je vous propose d'écouter maintenant Anna Viarden dans une interprétation du prélude de la suite anglaise numéro 2 de Jean-Sébastien Bach. Anna Viarden jouait ici le prélude de la suite anglaise numéro 2 de Jean-Sébastien Bach, l'une des pièces au programme du concert qu'elle a donné lundi, le 25 septembre, à Saint-Pierre-des-Cuisines. Voilà donc pour cette première partie d'émission et ce petit retour sur l'actualité musicale récente. Une petite virgule musicale, puis on se retrouve avec Sandrine Tilly, Serge Chauzy et Jean-Sébastien Borsarello. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
La seconde partie est l'agenda de Mélomanie, toujours avec Serge Chauzy et donc avec Sandrine Tilly et Jean-Sébastien Borsarello, respectivement flûtiste solo et timbalier solo de l'Orchestre National du Capitole, tous les deux membres des Clés de Saint-Pierre. La saison 23-24 s'ouvre le lundi 6 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines. Cela va de soi, il y aura 5 autres concerts d'ici le 6 mai prochain. On va tous vous les présenter en compagnie de nos invités du jour. Je rappelle que la saison des Clés de Saint-Pierre a été fondée il y a 23 ans à peu près, je crois, ça doit être ça, ça doit être en 2000, par des musiciens de l'Orchestre National du Capitole qui voulaient proposer au public toulousain des concerts de musique de chambre. Et tous les deux, Sandrine et Jean-Sébastien, vous faites partie de l'association depuis longtemps et même depuis le début vous concernant, Sandrine, hein, je ne me trompe pas.
Oui, moi j'étais au tout début de cette belle aventure avec notamment François Laurent qui était aussi flûte solo à l'orchestre et on a monté vraiment de toutes pièces à côté de l'orchestre de manière relativement autonome avec une équipe de bénévoles trésoriers, des gens très dévoués et on a monté de toutes pièces une saison de musique de chambre parce que finalement il n'y en avait pas de réel dans la programmation de l'Orchestre du Capitole. Et ça nous manquait.
Vous aviez envie, vous, de
on
jouer
avait
de
envie,
la musique de
les musiciens de l'orchestre avaient envie de jouer ensemble ce qu'ils voulaient proposer, avec qui ils avaient envie, et d'établir des connexions comme ça, de manière complètement autonome. Et c'est ce qui s'est passé.
C'est très bien que vous parliez de ça, parce qu'on peut se poser la question, vu de l'extérieur, comment vous fonctionnez pour bâtir la programmation ? Alors, je crois savoir que c'est sur proposition des membres de l'Orchestre du Capitole qui font partie des Clés de Saint-Pierre, puis ensuite vous votez en fait entre vous. Ça se passe comme ça, Jean-Sébastien ?
Alors oui, nous organisons un comité de sélection dont les membres ne présentent pas de projet. C'est quand même la particularité. Pour que le comité soit totalement impartial, les membres en fait sont choisis parmi des musiciens qui ne présentent pas de projet pour la saison à venir. Ce comité se réunit au mois de février. Donc en général, il y a une vingtaine de propositions pour seulement 5 concerts. Et c'est un vote, tout simplement, et la saison est construite à partir de ces votes. Donc les groupes qui reçoivent le plus de voix sont programmés d'office très rapidement, et ensuite, quand il y a des égalités, voilà, il y a un débat.
Un arbitrage qui se fait.
Voilà, mais très souvent, il n'y a pas forcément besoin d'arbitrage, ça va souvent de soi, et puis une fois que les deux, trois premiers groupes sont choisis, c'est vrai que pour équilibrer les saisons, le choix se fait assez rapidement et de façon assez évidente.
Oui, parce qu'il ne faudra pas que vous vous retrouviez, je dis n'importe quoi, avec 5 concerts où il n'y a que des quatuors à cordes, par exemple.
Ah oui, non.
Alors donc, premier concert de la saison, lundi 6 novembre, et je rappelle en passant que tous les concerts des Clés commencent à 20h et ont lieu à Saint-Pierre-des-Cuisines. Vous commencez avec un programme intitulé « Quintettes en miroir ». Et parmi les 5 musiciens qui vont se produire ce soir-là, il y a un certain Jean-Sébastien Borsarello. La surprise, c'est que vous n'allez pas vous produire en tant que percussionniste, mais en tant que pianiste. Ben, c'est votre premier instrument, en fait, le
piano. Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, c'est très drôle parce que ce programme de quintette en miroir, il avait été donné il y a une douzaine d'années aux Clés de Saint-Pierre, avec d'autres pièces pour accompagner ces quintettes, et avec quelques musiciens différents, mais je crois que c'est Estelle Richard, la bassoniste, qui est revenue me voir donc l'année dernière pour me dire ce serait bien qu'on remonte les quintettes, parce que c'est quand même des œuvres très emblématiques pour la musique des vents avec piano. Donc moi j'ai dit bah, bien sûr, avec plaisir. En plus je les avais déjà jouées donc il y a une douzaine d'années aux Clés de Saint-Pierre aussi. Et bah, voilà, le comité des élections nous a programmés. Donc c'est quintette en miroir, donc je veux parler bien sûr du quintette pour vent et piano de Mozart, mis en miroir avec celui de Beethoven. Quelques mots sur ces quintettes, ce sont des œuvres composées avec 12 ans de différence, le premier étant celui de Mozart en 1784. Et comme si Beethoven avait voulu un peu calquer, voire copier presque dans la forme, dans la formation aussi, le sien donc en 1796, même tonalité, mi bémol majeur, évidemment donc même formation, 4 vents, donc hautbois, clarinette, basson et cor, plus piano. Et oui, désolé Sandrine, il n'y a pas de flûte.
Alors bon, on va voter aussi après.
Oui.
Alors, il n'y a pas que ces deux quintettes. Hein,
non, alors...
Ça n'aurait pas suffi, par la durée,
voilà,
à remplir un concert de durée habituelle.
Voilà, alors je ne vais pas en dire trop sur les deux petites friandises, les petites fantaisies, mais il y aura une sonate de Beethoven à 4 mains, une très courte sonate, voilà.
Attendez,
en 2 mouvements.
Oui, on va poser une question après.
Mais non, je ne vous répondrai pas. Je ne vous répondrai pas. Il faudra venir au concert pour savoir qui jouera
ouais,
avec
ouais,
moi.
Ouais, ouais,
je m'en doutais.
Oui, oui, mais donnez-nous justement la composition de ce quintet, puisque bon, il y a 5 musiciens, évidemment. Alors, qui sont les 5 musiciens en question ?
Alors, Louis Seguin au bois, Florian Tardy à la clarinette, Estelle Richard au basson et François Lugue au cor.
Donc, vous êtes au piano.
Au piano.
Vous aurez remarqué qu'il y a donc une sonate de Beethoven pour piano à 4 mains. Ouais. Mais pas 4 mains, ou alors je...
Non.
Il n'y a pas 4 mains, vous confirmez.
Donc,
hein.
Faut venir écouter.
Je confirme.
Donc, je ne vois pas d'autres pianistes dans la distribution. Donc, parmi ces musiciens, et ce sera la surprise, il y en a forcément un qui joue du piano. Ou une.
Exactement.
Ou une.
Voilà.
Et ça, vous ne nous en direz pas plus.
Non. Par contre, il y aura, alors ça c'est
pas
facile.
C'est pas une invité surprise, vous me confirmez qu'il est quand même dans les...
Ah, le ou la musicienne ou musicien qui jouera avec moi, eh bien, dans l'effectif.
C'est pas West Star qui vient,
voilà.
Son Kili qui vient s'essayer au piano.
Non, ça tombe bien.
Bon.
Voilà, il y aura quelques petits duos aussi pour clarinette et basson. Donc là, on sait qui sont les musiciennes. Des duos sans opus, des petites un peu
Et tout ça
fantaisie.
Sera de Beethoven. Et on va écouter un petit extrait du quintet pour piano et vent mi bémol majeur, opus 16 de Beethoven. Il s'agit du troisième mouvement Rondo Allegro ma non troppo. Le troisième mouvement, Rondo Allegro, ma non troppo, du quintet pour piano et vent en mi bémol majeur, opus 16 de Ludwig van Beethoven, l'une des quatre œuvres au programme du concert Quintet en miroir, que vous donnez donc le 6 novembre en compagnie de vos quatre camarades de l'Orchestre National du Capitole. Alors Jean-Sébastien, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, une petite anecdote personnelle. Quand nous étions en tournée à Vienne il y a quelques années avec l'orchestre, et en fin d'après-midi, je décide avec des collègues d'aller boire un petit chocolat chaud, avec évidemment une petite Zachertorte, dans un café viennois. Et quelle ne fut pas mon étonnement et ma surprise en voyant une plaque dans le café que nous avions choisi. Alors malheureusement, je ne me rappelle plus du nom, mais une plaque disant que le quintet en mi bémol pour vent et piano avait été créé dans ce café avec Beethoven et des collègues à lui. Voilà, ça avait été joué en public dans ce café.
Ah ben dis donc, ça va écouter.
La musique au café, c'est bien.
De la raconter, cette anecdote. Vous, Sandrine Tilly, vous vouliez nous expliquer comment naissent les idées qui vont amener un programme plutôt qu'un autre, puis comment aussi se forment les ensembles qui se produisent au Clé de Saint-Pierre.
Bah oui, c'est toujours un petit côté, je pense, un peu étonnant, un peu magique. Comment est-ce que naît un programme? En fait, ça part pas souvent d'une grande idée, voilà, d'un programme construit. Il y a parfois deux musiciens qui se disent, bah tiens, on a envie de jouer ensemble. Donc on va essayer de trouver d'autres musiciens, ou alors j'ai très envie de jouer cette pièce-là, bon elle fait qu'un quart d'heure, donc il faut que je construise un programme autour. Et parfois, ça peut être une œuvre qu'on joue à l'orchestre, par exemple, qui nous inspire particulièrement, et je sais que par exemple c'est le cas du programme que je présenterai tout à l'heure, et qui nous pousse à faire des recherches, qu'est-ce que ce compositeur a pu composer pour mon instrument, pour un groupe de musique de chambre que j'affectionne, et là on se met à découvrir plein de choses, plein d'œuvres. Et on ne sait pas toujours ce que ça va donner. Parfois, on ne sait même pas à l'avance
parfois,
ce que ça va donner.
Parfois, vous éloignez complètement de l'idée de départ.
Parfois, complètement, mais totalement.
Très, très bien. Oui, oui.
Mais c'est le mystère de la création. Ça,
créateur, oui.
Il faut se laisser guider par une forme d'instinct. Il faut se laisser un peu aller. Quoi,
parfois, par les circonstances.
Hein. Oui, par les circonstances, oui, tout à fait.
Alors, le concert suivant va très vite arriver puisqu'il a lieu le lundi 27 novembre, trois semaines après le premier. De nouveau, cinq musiciens de l'Orchestre National du Capitole sur la scène de Saint-Pierre-des-Cuisines qui présentent un programme intitulé « Made in England ». Et ce n'est pas de la publicité mensongère, il n'y a bien que des compositeurs britanniques au menu de cette soirée, Jean-Sébastien.
Alors oui, absolument. Je me suis entretenu avec le responsable du groupe, donc Vitaly Raskazov. Donc il m'a expliqué un petit peu la genèse, comme pourrait dire Sandrine, la genèse de ce programme. Donc nous avons effectivement que des compositeurs anglais du début de la première moitié du XXe siècle. Mais cela dit, avec des esthétiques assez différentes. Elgar, par exemple, Edward Elgar, qui est quand même très symphoniste, presque d'inspiration wagnérienne, on pourrait dire parfois. Puis Ralph Vaughan Williams, lui aussi, souvent des grosses orchestrations assez denses. D'ailleurs, j'en profite pour dire à nos auditeurs que l'Orchestre du Capitole jouera du Vaughan Williams dans les saisons à venir, puisque nous avons appris que notre nouveau directeur musical, Tarmo Peltokoski, aimait beaucoup ce compositeur. Et voilà, lors d'un entretien, une réunion avec lui, il nous a informé qu'il souhaitait vraiment...
Attendez-vous à jouer du Vaughan Williams, que vous aimez ou pas,
voilà,
vous aimeriez jouer du Vaughan Williams.
Voilà,
personnellement, je m'en réjouis.
Bon. Ah, c'est parti aussi, de ces compositeurs de prédilection, nous a-t-il dit. Et deux compositeurs anglais beaucoup moins connus, Ernest Moeran. Alors, il fut un élève de Vaughan Williams. Et le dernier, Arthur Bliss. Apparemment, il était assez inspiré par la musique de Debussy, de Stravinsky, donc plutôt musique française. Donc, l'œuvre de Moeran sera la Fantasy Quartet pour hautbois et trio à cordes. En fait, moi, ça fait écho à celle de Britten, finalement, qui a été jouée, il me semble, l'année dernière,
oui,
au
oui.
Clé de Saint-Pierre.
Oui, oui.
Voilà, donc c'est une œuvre en un seul mouvement, un long mouvement qui évolue tout du long.
En fait, il y a cinq musiciens, mais il y a un seul quintet dans tout ça.
Oui, le quintet
d'Arthur Bliss. Voilà. Quintet pour hautbois, équateur à cordes. Les trois autres œuvres, ce sont des quatuors.
Des quatuors, dont un avec un hautbois et trio à cordes. Et donc, quatuor à cordes de Elgar et quatuor à cordes de Vaughan Williams. Un autre élément, c'est que Moeran était un peu le Bartok de l'Angleterre. Alors pourquoi? Parce que, comme Bartok, il aimait beaucoup la musique folk. Alors, il paraîtrait que Moeran avait le coup de... Comment on dit
Levait le coude facilement.
Voilà, il levait le coude facilement. Et il allait dans les pubs et il notait, entre deux pintes, il notait les chansons, il notait les airs.
Les chants d'ivrogne même.
J'espère qu'il arrivait à se relire après.
Voilà. Et comme Bartok, il les utilisait dans ses œuvres. Comme son professeur aussi, d'ailleurs, Vaughan Williams, qui a transcrit un nombre...
Donc il y a des airs populaires, voilà, folkloriques, populaires, qui sont la source d'inspiration de ce Moheran.
Exactement.
Alors, il y a une autre particularité, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la composition de ce quintet. Parce que nous avons... Je vais vous laisser dire les noms et les gens vont tout de suite comprendre. C'est très, très international.
Alors, nous avons Shi Wen Cheng au hautbois.
Qui est hongkongais.
Hongkongais, exactement. Nous avons Vitali Raskazov.
Russe.
Russe. Alors, il y aura Romance le Roi au violon.
Ah, ce
française.
N'est plus Chouki, d'accord.
Ce sera le Romance le Roi. Joyce Blanco-Lewis, alto.
Vénézuélienne.
Bravo. Et Aurore Dassès au violoncelle. Ah,
ça sonne bien française, ça.
Eh ben non.
Elle est suisse?
Non. Belge.
Belge.
Elle est belge.
Quand je dis que c'est international.
Voilà.
Alors, c'est très international, mais vous en remarquez aussi, il n'y a pas un seul ou une seule anglaise. Et c'est un programme anglais, c'est formidable.
Ah oui.
Formidable. Mais les musiciens sont internationaux.
Ah oui, c'est ça, oui, formidable. Voilà, ben écoutez, le quatuor à cordes en mi mineur opus 83 d'Edward Elgar est très beau. En voici pour preuve le premier mouvement, Allegro Moderato. Le premier mouvement Allegro Moderato du quatuor à cordes en mi mineur d'Edward Elgar, l'une des quatre pièces au programme du concert Made in England du 27 novembre. Il faut attendre ensuite le début de l'année 2024 pour le concert suivant donné le 15 janvier par un trio formé de trois musiciens dont vous allez nous indiquer les noms. Le programme est intitulé Hommage à Forêt. Et oui, parce que 2024, c'est l'année Forêt.
Oui, oui, tout à fait.
Né à Pamiers, effectivement, ariégeois.
On pourrait presque dire le compositeur régional.
Oui. En tout cas, c'est le plus grand de notre région. Il y en a d'autres, hein. Il y a Sébrac.
Oui. Non, mais Forêt, c'est un monument, quoi.
Absolument.
Donc les musiciens seront Alexandre Dalbigo au violon, Benoît Chapeau au violoncelle et Inessa Lecourt au piano. Et donc c'est un groupe qui joue régulièrement ensemble depuis 2019. Ils nous ont déjà proposé des programmes régulièrement, de la musique germanique. Ils avaient envisagé un programme aussi autour des femmes compositrices.
Ah, c'est très à la mode, ça.
Voilà, mais finalement, bon, le centenaire Forêt, ils se sont rabattus sur Forêt. Et donc, Forêt et Chausson, pour mettre un trio en miroir, si j'ose
là,
dire.
Là, c'est en miroir. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, Forêt était l'aîné des deux, puisqu'ils avaient 10 ans d'écart, je crois, 1845 Forêt, 1855 Chausson. Et en fait, c'est le trio Chausson qui est antérieur à celui de Forêt.
Ah oui.
Largement même.
Ah oui,
il y a 40 ans d'écart.
3. C'est l'opus 3 de Chausson. Alors tandis que Forêt a écrit ce trio
vers la fin de sa vie.
Vers la fin de sa vie, ce sont l'une de ses dernières œuvres. Et je peux vous dire qu'il est assez étonnant. En fait, j'ai eu l'opportunité de le jouer il y a quelques années. Et quand je l'ai écouté la première fois, je me suis dit ah tiens,
Ça ressemblait pas à du Forêt, vous voulez dire ou...
Si, si, justement, c'est, ah, ça ressemble vraiment à du Forêt, forêt semble, mais, oui. mais pas aussi, comment dire, pas aussi évident que les mélodies qu'on connaît de Forêt, voilà. Et c'est en le travaillant vraiment que je me suis imprégné de ce trio, et après pour en découvrir vraiment les beautés, les, surtout les mélodies, parce qu'on est vraiment beau, sur oui. des trios avec beaucoup de mélodies, de lyrisme. De... Alors il faut savoir que ce trio, Forêt l'avait aussi imaginé avec clarinette.
Oui, voilà. Au départ, c'était ça, je crois, d'ailleurs.
Il avait imaginé un trio clarinette, violoncelle, violoncelle, piano. Et bon, finalement, les deux versions existent. Et ça, ça fonctionne très, très bien à la clarinette aussi.
Alors, il n'y a pas vraiment de filiation entre Forêt et Chausson, puisque Chausson, ses maîtres, c'était Massenet et Franck. Oui. Et Forêt, lui, c'était Saint-Saëns. Mais c'est marrant.
Non, mais c'est très bien de les rapprocher. Oui, oui, hein. C'est vraiment une bonne idée. Hein.
Mais Alexandre me disait justement que ce côté mélodie...
pouvait se retrouver
oui,
chez l'un et l'autre, bien sûr.
Se retrouver parfaitement chez Chausson et chez Forêt. En tout cas, dans ces deux œuvres-là.
Bah, ils ont tous les deux écrit pour la voix aussi, beaucoup de mélodies.
Mais c'est ça.
Pour la voix, c'est vraiment...
En tout cas, oui, l'époque, c'est la grande époque de la mélodie française, ça c'est
bah,
certain.
Oui.
Voilà. Alors, impossible de ne pas illustrer ce programme du concert du 15 janvier qui rend hommage au compositeur apaméen, comme l'a rappelé Jean-Sébastien Borsarello, sans écouter un extrait du trio avec piano en ré mineur de Gabriel Fauré. J'ai choisi son magnifique deuxième mouvement, Andantino. Deuxième mouvement, Andantino, du trio avec piano en ré mineur, opus 120 de Gabriel Fauré. Une pièce qui sera donc jouée le 15 janvier lors du concert Hommage à Fauré. Le quatrième concert de la saison est programmé le 19 février. Et là, ils ne seront pas 3 ou 5 à Saint-Pierre-des-Cuisines, mais 7, puisqu'un septuor est au menu de la soirée. Ce concert est sous-titré Les Vents Insolites. Il n'y aura donc que des instruments à vent sur scène. Et notamment, il y aura la flûte de Sandrine Tilly.
Tout à fait. Donc, ce programme, il est né en fait juste d'une envie de jouer entre collègues vents. On n'a pas pu tous se réunir. On aurait été beaucoup trop nombreux, évidemment. Mais finalement... Le terme insolite, c'est qu'on a eu envie de faire un concert d'instruments à vent sans entrer dans les deux formations un peu classiques qui sont le quintet à vent ou l'octuor à vent. Et on a eu envie d'intégrer des instruments à vent qui n'on joue pas toujours ensemble. Par exemple, on a intégré la clarinette basse et la trompette. Alors la trompette, j'avoue que c'est par hasard, j'ai trouvé une pièce de Hindemith avec trompette, je me suis dit, bah, pourquoi pas ? Là du coup, on est vraiment dans l'insolite, et d'ailleurs on a trouvé le titre. Donc qu'est-ce qu'on va jouer ? On a un programme qui est résolument ancré dans le XXe siècle. C'est vraiment le dénominateur commun, c'est le XXe siècle, mais pas le XXe siècle vraiment contemporain, dans l'art modernité, mais pas très très moderne. Et donc le XXe siècle, les instruments avant. On parcourt un petit peu de l'Europe, puisqu'on a un compositeur anglais, Frank Bridge, que je découvre aussi. Donc ça, c'est un compositeur qui a écrit au tournant du XXe siècle.
Quatre instruments. Divertimenti, voilà. pour flûte, hautbois, clarinette et basson.
Là, on est plutôt... C'est assez classique, on sort du romantisme, on est en Angleterre, on a quatre instruments. Voilà. Ensuite, une pièce de Janáček. Janáček, j'avais déjà pensé à cette pièce quand on avait joué Yenoufa, l'opéra, il y a, je ne sais plus, 3 ou 4 ans. Je m'étais dit, en jouant Yenoufa, ah, tiens, il y a une pièce qui est très belle, qui s'appelle Mladi, et qui est écrite pour flûte, hautbois, clarinette, basson, cors et clarinette basse, ce qui est extrêmement original. Donc là, on est chez un Janáček assez austère, assez... C'est pas une pièce brillante, c'est une pièce assez intimiste, c'est très très intéressant. Et donc, ça nous permet d'inclure la clarinette basse, qui finalement n'a pas souvent grand-chose à se mettre sous la dent en musique de chambre. Donc maintenant, on avait notre clarinette basse, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a trouvé une pièce de Jean Français, donc un sextuor, même formation que Janáček. Alors, Jean Français, c'est un compositeur français, ça s'écrit avec un X, Jean Français. Alors, il a écrit plutôt dans la deuxième partie du XXe siècle, mais dans un style relativement néoclassique, assez facile à écouter, avec des très belles mélodies. C'est quelqu'un qui écrit très très bien pour les instruments avant et qui écrit de manière très virtuose. C'est-à-dire qu'il va y avoir... c'est une pièce très redoutablement difficile au niveau technique.
Exigeante sur le plan technique.
Voilà. Mais assez marrante. Et pour finir, alors je ne sais pas encore dans quel ordre nous jouerons les pièces, mais nous avons aussi une pièce de Paul Hindemith, donc compositeur allemand, milieu du XXe siècle. Enfin non, plutôt entre les deux guerres, qui a fait partie de ces compositeurs qui ont été très malmenés par le régime nazi montant. Donc, il n'a pas fait sans doute la carrière qu'il aurait pu faire. Il est allé aux États-Unis, ça lui a simplifié les choses. Et lui, il a écrit une pièce. Alors là, c'est complètement improbable. Donc, on a une flûte, un hautbois, une clarinette basse, un basson, un cor et une trompette. Donc, pourquoi
c'est la seule
une trompette
pièce où va intervenir, la trompette.
Voilà, donc on a donc une trompette qui va jouer avec nous, Hugo. On est très content hein, de jouer avec lui, évidemment.
Donc c'est Hugo Blacher qui sera
Hugo
la trompette. Vous pouvez citer les cinq autres. Donc Sorrentini à la flûte, bien sûr.
Alors ce sera Louis Seguin au bois, Florian Tardy à clarinette, Guillaume Brun au basson, Benoît Huy au corps et Victor Guémy à la clarinette basse.
Alors, pas facile de faire un choix parmi les quatre œuvres qui seront jouées le 19 février. J'ai finalement jeté mon dévolu sur le sextuor pour flûte, hautbois, clarinette, cor, basson et clarinette basse de Leos Janáček, effectivement intitulé Mladi, ça veut dire jeunesse. Alors, c'est assez curieux parce qu'il l'a composé, il avait 68 ans, 67 ou 68 ans.
Jeunesse. C'est encore jeune. Bon,
oui, sans doute. On va écouter le troisième mouvement, Vivace. Thank you. le troisième mouvement Vivace du Sextoire pour flûte, hautbois, clarinette, cor et basson, clarinette basse de Leos Janáček, appelé aussi donc Sextoire Mladý. Alors cette œuvre est au programme du concert Les Vents Insolites du 19 février. Le dernier concert de la saison 23-24 des Clés de Saint-Pierre a lieu le 6 mai, mais avant cela il y a un concert hors abonnement le samedi 2 mars. C'est à 15h, attention, c'est l'après-midi, à l'Opéra National du Capitole. Alors pourquoi l'Opéra National du Capitole ? Eh bien parce que ce concert fait partie des 6 programmes que l'Opéra et l'Orchestre National du Capitole consacrent en 2024 aux œuvres de jeunesse de Mozart, Jean-Sébastien.
Oui, tout à fait. C'est l'administration donc de l'orchestre et de l'opéra qui est venue nous voir les Clés de Saint-Pierre en nous proposant un partenariat sur un concert avec pour thématique... Alors, ce n'est pas habituel puisque les thématiques aux Clés de Saint-Pierre sont libres, puisque comme je vous expliquais tout à l'heure avec le comité de sélection. Mais là, nous avons eu une sorte de cahier des charges finalement, et même un cahier des charges assez pointu, car on nous demandait de concevoir un programme avec des œuvres de Mozart, mais Mozart écrites avant l'un de ses premiers opéras, Idoménée, que nous allons donc jouer aussi dans la saison de l'opéra du Capitole. Et toutes les œuvres présentées en musique de chambre devaient avoir été écrites avant cet opéra. Donc c'était assez limité finalement. Et donc nous avons eu 2-3 propositions et nous en avons choisi une en interne et nous l'avons soumise donc à l'administration de l'orchestre qui était ravie. Et donc voilà, ce concert a lieu en partenariat. Donc les musiciens, vous aurez le plaisir d'entendre la nouvelle flûte solo de l'Orchestre du Capitole, oui. Mélisande Daudet.
Avec ce joli prénom, voilà. Mélisande Daudet.
Très qui bien. A pris la succession de François Laurent, qui était aussi grand actif des Clés de Saint-Pierre.
Bah, le fondateur, quasiment.
Et puis, le quatuor de cordes et âmes, Mary Randles, au violon, Laura Jaillet, au violon également, Isabelle Mention à l'alto, Gaël Sédou au violoncelle, et une deuxième altiste, Joyce Blanco-Lewis, parce qu'il y aura plusieurs œuvres avec des formations différentes.
Différentes, oui. Donc il y a le quatuor numéro 4 dit Milanais, le quatuor numéro 13 dit Viennois, le quintet pour cordes numéro 1 en si bémol majeur, et il y aura le quatuor pour flûtes et cordes numéro 1 en ré majeur. Voilà donc pour ce concert du 2 mars à l'Opéra National du Capitole. Et pour l'illustrer, je propose qu'on écoute le deuxième mouvement Adagio du quatuor pour flûte et cor numéro 1, K285 de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. Le deuxième mouvement du Quatuor pour flûte et cordes numéro 1 en Ré majeur K285 de Wolfgang Amadeus Mozart, au programme du concert du samedi 2 mars à 15h à l'Opéra National du Capitole, un concert hors abonnement donc, pour lequel il faut réserver ses places en se connectant à la billetterie en ligne de l'Opéra et non pas à celle des Clés de Saint-Pierre. Et donc enfin, on revient à Saint-Pierre des Cuisines pour le dernier concert de la saison des Clés lundi 6 mai à 20h, avec encore un type de formation peu commun, un trio violon, cor et piano, qui donne un programme soutien titré « Romances des secrets », qui sont donc ces trois musiciens et que vont-ils jouer ce soir-là, Jean-Sébastien ?
Alors, les musiciens seront Jaewon Kim, notre nouvel violon super soliste, l'alter ego de Christy et Jay-Z. Maintenant, nous avons deux super solistes à l'Orchestre du Capitole. Et donc, Jacques Deleplanc, notre...
Nouveau retraité,
Oui.
Le alors, retour
C'est ça, le retour, le baroud d'honneur, on pourrait
il
dire.
Il est retraité de l'Orchestre national du Capitole, mais pas retraité de la musique.
Non, pas du tout.
Loin de là.
Pas du tout, là. Je l'avais tout à l'heure au téléphone, il est très, très demandé, très, très chargé. Il enchaîne les projets.
Comme beaucoup de retraités, souvent, ils sont encore plus actifs.
Voilà. Et le troisième musicien, Romain Descharmes, pianiste, assez connu.
Il a joué à Toulouse dans la saison bleue, je crois, notamment à l'époque d'Alain Lacroix. Mais il vient jouer là parce qu'il est ami avec Jacques Deleplanc ou...
Oui, alors je pense que... Oui,
le
oui,
lien, c'est ça. Hein.
Voilà, je pense que le lien, c'est avec Jacques. Et donc, ils vont interpréter trois pièces. Alors, la formation avec trio, ce sera le fameux trio de Brahms pour violon, cor et piano, opus 40. Donc, c'est quand même une œuvre emblématique de cette formation. Et pour compléter le concert, il y aura une sonate pour violon et piano de Brahms, la première sonate, et les très très belles trois romances pour violon et piano de Clara Schumann. Et j'en viens à vous expliquer peut-être un peu le titre de ce concert, parce que voilà, nous avons, enfin les historiens se sont demandé s'il n'y avait pas eu quelques liaisons platoniques entre Clara Schumann et Johannes Brahms.
Et peut-être pas platoniques, enfin on ne sait pas.
Et voilà, bon, le mystère reste entier et on leur laisse, je pense, ce mystère. Si on voit ces trois romances de Clara Schumann, moi je les mettrais plutôt en écho à celle de son mari Robert pour au bois, donc les trois romances pour au bois de Robert Schumann. Clara était en admiration totale devant son mari, elle l'a accompagné dans sa maladie, dans sa folie, quand Schumann était interné. Brahms l'a beaucoup soutenu, Brahms était amoureux de Clara Schumann, mais... Possiblement
ça
que Clara
n'a pas pu donner suite
parce qu'elle était totalement amoureuse de Robert Schumann.
Tout de suite, un extrait de la sonate pour violon et piano en sol majeur numéro 1 plus 78 de Brahms, le premier mouvement, Vivace, ma non troppo. Le premier mouvement Vivace, ma non troppo de la sonate pour violon et piano en sol majeur de Johannes Brahms, l'une des trois pièces au programme du concert de la clôture de la saison 23-24 des Clés de Saint-Pierre, Ce sera donc le lundi 6 mai à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisine. Très belle saison, pleine d'originalité avec beaucoup de découvertes à faire. Et c'est la vocation, entre autres, des clés. Avant de terminer cette émission, nous avons deux événements à vous annoncer et vous présenter. On va passer rapidement sur les Pêcheurs de Perles, l'opéra de Georges Bizet, dont la première des 7 représentations a lieu ce mardi soir à 20h à l'Opéra National du Capitole. C'est une nouvelle production qui s'est fait attendre puisqu'elle aurait dû être créée il y a 2 ans, mais la crise sanitaire due au Covid en a décidé autrement. Sandrine et Jean-Sébastien, vous êtes d'ailleurs l'un et l'autre dans la fosse au Capitole avec vos camarades de l'orchestre. Peut-être quelques mots sur les rôles principaux et sur le directeur musical, mais ça, nos camarades musiciens vont peut-être en parler plus facilement. Victorien Van Osten. C'est la première, je crois.
Oui, c'est la première fois qu'il dirige l'Orchestre du Capitole. La première fois en tant que chef invité, car il était venu il y a quelques années à une masterclass de direction de Tougan Sokiev. Ouais,
tout jeune chef.
Il y a une dizaine d'années même.
Tout jeune chef.
Il
a quoi, il a une trentaine d'années, un peu plus peut-être. Il est très jeune.
Ça se passe très bien. Vraiment, il a une belle... Il a une très belle conception de l'œuvre, il connaît très bien toutes les idées qu'il veut transmettre, la direction des chanteurs aussi. Non, vraiment, c'est un très beau spectacle. Et ce qui est, je trouve, assez notable, il y a 2 choses qui sont assez remarquables, c'est que d'une part, cet opéra, c'est une collaboration vraiment entre l'orchestre, le chœur du Capitole et le ballet du Capitole.
Ballet, chœur et orchestre.
Voilà. Et la deuxième chose remarquable, c'est que c'est vraiment une production faite à Toulouse, parce que les décors ont été fabriqués à Toulouse, les costumes ont été fabriqués et la mise en scène et les chorégraphies ont été vraiment travaillées pour ce spectacle qui aurait dû avoir lieu effectivement il y a 2 ans, mais on est très heureux de enfin le produire.
Oui, puis c'est un chef-d'œuvre cet opéra. Enfin, ça, Serge, par contre, là, vous pouvez peut-être en dire quelques mots. C'est une merveille, les Pêcheurs de Perles.
Ah bah oui, c'est une très belle musique. Hein, donc,
c'est déjà du grand Bizet, il a 25 ans hein, quand il le compose.
Oui, à peine. Hein, donc, non, c'est une belle, très belle musique qu'on n'avait pas entendue sur la scène du Capitole depuis 25 ans. Ans.
Oui.
Tout de même. Donc c'est un retour et qui était souhaité par le public. Hein.
Oui, oui.
Puisqu'il y a eu un afflux de réservations.
Dans Carmen, on voit presque tous les 2-3 ans, effectivement, les Pêcheurs de Perles. Donc, bon, je redonne les rôles principaux. Donc c'est Mathias Vidal qui est dans le rôle de Nadir. Anne-Catherine Gillet joue dans le rôle de Leïla. Alexandre Duhamel est Zurga et Jean-Fernand Setti, dimanche Jean-Fernand Setti, autant par le gabarit que par le talent, et Nourabad. Bon, je rappelle que l'intrigue se passe à Ceylan, donc vous verrez. Moi, j'ai assisté à la générale. Je ne veux pas, évidemment, dévoiler ce que j'ai pu voir, mais les costumes, les décors, c'est très coloré, c'est vraiment surprenant, j'en dis pas plus. En revanche, sachez que presque toutes les représentations sont complètes. Donc si vous voulez y aller, il faut vraiment se dépêcher. Il y a déjà une 7e représentation qui était ajoutée, parce qu'il n'y en avait que 6 à la base. Donc voilà, il faut vraiment faire vite. Et puis donc, toujours cette semaine, l'Orchestre du Capitole fait sa rentrée à Toulouse et lance sa saison samedi, le 30 septembre à 20h à la Lograin, avec à sa tête, et c'est une première, un très grand chef, l'Allemand d'origine polonaise, Marek Janowski, qui à l'âge de 84 ans va donc faire ses débuts à Toulouse, à la tête de notre orchestre symphonique. Il va diriger 2 œuvres superbes et prestigieuses.
Ah oui, 2 œuvres qui sont pratiquement presque contemporaines. La toute première de Beethoven, il avait 30 ans, et la dernière, la 9e de Schubert, il avait 31 ans, donc ils avaient pratiquement le même âge. Non, ils n'étaient pas contemporains.
Il y a 25 ans.
Oui. Mais bon, et l'une, c'est la première.
Et l'autre, c'est la dernière de Schubert.
Et l'autre, c'est
La dernière qu'il a achevée.
Qu'il a achevée, exactement, à la création de laquelle il n'a pas pu assister. Donc, puisque c'est Schumann qui a organisé le concert après la mort, plus de 10 ans après la mort de Schubert, et ça a été dirigé par Mendelssohn, Félix Mendelssohn. Donc, c'est 2 symphonies dont la bonne idée est ce rapprochement, justement.
Voilà, la 9e symphonie de Schubert, qu'on appelle aussi la grande, elle dure une heure, hein, plus ou moins.
Ah oui, c'est ce que disait avec... impertinence, je ne sais plus quelle critique, Schubert a composé 2 symphonies, l'une est inachevée, l'autre est interminable. Bon, c'est pas très gentil, d'autant plus que...
En tout cas, il y a beaucoup de raisons d'assister à ce concert, notamment parce que Marek Janowski, comme je le disais, va faire ses débuts à la tête de l'Orchestre du Capitole à l'âge de 84 ans. Et vous, Sandrine Tilly, vous le connaissez, parce que quand vous étiez toute jeune musicienne, vous avez eu l'occasion d'être dirigée par Marek Janowski.
Oui, il se trouve que quand j'étais encore au Conservatoire supérieur de Paris, j'étais flûtiste à l'Orchestre français des jeunes, qui est un orchestre école, qui est une chose qui ça m'a beaucoup marqué, parce que ça m'a vraiment appris le métier. C'était juste avant d'être nommé à Toulouse. Et Marek Janowski était le chef d'orchestre. Il avait pris en main cet orchestre de jeunes, alors que, bon, il était pas, il faisait une immense carrière déjà. C'était, je pense qu'il avait envie de former un peu les jeunes générations. Et donc, je l'ai connu 4 étés de suite. Donc, c'est un orchestre qui c'est une forme de stage. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, beaucoup apporté, parce qu'à cet âge-là, c'est vrai que ce sont des rencontres exceptionnelles. Donc je suis très, très heureuse, très émue de le retrouver pour ses débuts à Toulouse.
Voilà, comme je le disais, il y a vraiment beaucoup de raisons d'assister à ce premier concert de la saison d'Orchestre National du Capitole. Nous allons pouvoir écouter un extrait de la symphonie numéro 9, La Grande, de Franz Schubert, le deuxième mouvement Andante con moto, dans une version de l'Orchestre du Capitole, placée ici sous la direction de Léo McFaul. Elle a été enregistrée lors d'un concert à la Halle au Grain il y a de cela 2 ans. Le deuxième mouvement d'Andante con moto de la symphonie numéro 9, La Grande, de Franz Schubert, dans une interprétation de l'orchestre du Capitole dirigé par Léo McFaul, une œuvre programmée lors du premier concert de la saison de l'ensemble symphonique toulousain à la Halle au Grain, ce samedi 30 septembre à 20h. Il est dirigé par Marek Janowski et vous pouvez réserver, acheter vos places en ligne sur le site de l'orchestre www.onct.toulouse.fr. Je rappelle d'autre part que la veille, vendredi 29 à 20h30 à l'église Saint-Joseph de Montauban, a lieu le concert d'ouverture de Passion Baroque 2023, un festival qui se poursuivra jusqu'au 8 octobre et pour lequel le détail de la programmation est consultable sur le site www.les-passions.fr. La billetterie étant en ligne à l'adresse www.passionbaroque.festic.net. D'autre part, si les représentations des Pêcheurs de Perles à l'Opéra National du Capitole sont presque toutes complètes, vous pouvez tout de même tenter votre chance en vous connectant au site www.opéra.toulouse.fr. Je rappelle enfin que le festival Piano Jacobin va connaître son épilogue le 29 septembre. Il reste 2 concerts, les 27 et 29. Vous pouvez vous renseigner, réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.pianojacobin.com. Et je signale pour terminer que pour réserver et acheter vos places au concert des Clés de Saint-Pierre, l'adresse à laquelle il faut se connecter est la suivante, www.lesclésdesaintpierre.org. Ouverture de la saison le lundi 6 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Merci infiniment à mes 3 invités, Sandrine Tilly, Serge Chosy et Jean-Sébastien Borsarello, d'avoir participé à cette émission. Je remercie également Christophe Aubry qui a réalisé ce numéro, dont le podcast est téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci encore une fois de votre fidélité à l'écoute de Mélomanie. Excellente semaine musicale à tous.